Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. C'est rare que je vous parle de ma vie privée, mais là je vais vous raconter ce que j'ai fait par un beau dimanche après-midi hier. Je suis allée me faire vacciner pour ma troisième dose, puisque mes deux premières doses étaient des AstraZeneca, donc je suis allée chercher mon Pfizer. Et vous le savez peut-être si vous écoutez l'émission de temps en temps, vous savez que j'ai une phobie vraiment des aiguilles. Je me mets à sangloter comme un enfant de 5 ans quand je vois une aiguille. Et justement, je voulais remercier les infirmières qui travaillent à la vaccination avec des grands-enfants comme moi qui sont d'une patience extraordinaire. Je voudrais aussi noter l'extrêmement bonne organisation. Vraiment, le Québec m'impressionne beaucoup. C'est toujours très, très bien organisé. C'est rapide, c'est sécuritaire. Et surtout, je voudrais féliciter les petits-enfants que j'ai vus hier en grand nombre, accompagnés évidemment de leurs parents, encadrés par Spider-Man et un tas de petites princesses pour vraiment que cette opération de vaccination soit un succès. Quand j'ai vu, je vous avoue, Spider-Man arriver pour me consoler parce que je sanglotais à la vue d'une aiguille, j'ai poussé un grand et très amusé. Ben voyons donc!
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Écoutez, j'ai lu ça dans le journal. Mes yeux n'en croyaient pas mes oreilles, comme on dit à la blague. Des chiffres absolument hallucinants. Il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, surtout chez les enfants, qui ont des drôles d'idées de nutrition. Par exemple, 50% des enfants américains pensent que la frite est une viande. Quand je suis tombée sur ces chiffres-là, je me dis, ben voyons donc, ça n'a aucun sens. J'avais envie d'en parler avec Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition et que vous lisez, bien sûr, régulièrement dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie, c'est un plaisir de te retrouver, mais effectivement, cette étude-là, ben écoute, comme toi, j'ai dit, oh, j'ai été très étonnée. Et puis, ben, je suis allée chercher un petit peu plus loin. J'ai vu l'étude au complet aussi, là.
D'accord. Alors, ça a été publié quand même dans le Journal of Environmental Psychology. Donc, c'est pas un truc qui a été fait sur le coin de la table. On a demandé à 176 enfants américains âgés de 4 à 7 ans de déterminer l'origine de 13 aliments, leur demandant, ben ça, c'est d'origine animale ou d'origine végétale. Bon, on explique qu'il y a certaines réponses quand même qui peuvent être explicables parce que, tu sais, c'est sûr que si tu parles à un enfant de 4 ans, il croit aux licornes puis il croit encore au Père Noël puis à la Fée des Étoiles. Mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. Comme par exemple, 41% des enfants qui croient que le bacon, c'est une plante.
Oui.
Allô?
Ben non, je le sais. Et les enfants, écoute, ben premièrement, dans cette étude-là, 55% des enfants provenaient de ménages à faible revenu. Donc ça, ça peut être une piste peut-être exploratoire. Au niveau de l'identification, évidemment, c'est un constat, surtout chez les plus jeunes, hein, parce qu'il y avait deux groupes. Il y avait un groupe plus âgé chez les plus jeunes, comme tu dis, bon, on peut s'attendre à ce genre de résultat-là. Le fromage également, 44% des enfants ont mal identifié le fromage, pensant que ça venait des plantes. Les saucisses hot dog, 40%, le poulet, 38%. Et quand on s'en va vers les légumes, les fruits, 17% ont mal identifié les carottes, 16% les pommes. Mais le constat, c'est surtout pour la viande. Et il y avait une autre partie à l'étude où les enfants devaient dire, bon, est-ce que la vache, on consomme ça? Ben, 77% des enfants disaient non. Le cochon, est-ce qu'on peut manger ça du cochon? 73% des enfants disaient non. Et le poulet, 66% disaient non. Puis là, quand on cherche des pistes, pourquoi? Ben, on parle surtout dans l'étude de la réticence des parents de parler de l'origine des aliments. On sait que les enfants adorent les animaux. Puis là, tu te dis, ben là, si le porc que tu manges, le bacon que tu manges provient d'un joli petit porc, ben peut-être que l'enfant ne voudra pas manger de viande. Donc ça, c'est la piste numéro un qui est identifiée vraiment par les chercheurs. Puis j'étais contente d'aller chercher l'étude parce que souvent, on lit les gros titres. Puis,
bien sûr.
Il y a un manque d'éducation, ça n'a pas de sens. Et quand tu lis les raisons qui sont évoquées, ben il y a ça. Puis les enfants qui identifiaient correctement pensent que la viande vient d'un animal qui est décédé de cause naturelle, là, on va extraire la viande. Il faut surtout pas maltraiter l'animal, faut en prendre soin. Donc, il y a tout ça là, qui explique un petit peu les résultats. Là. Il y a aussi le fait qu'un manque de ressemblance en épicerie, par
mais
exemple,
oui.
La plupart mangent des poitrines de poulet. Le poulet entier, c'est de moins en moins commun dans les ménages. Là.
Ah oui! Alors, c'est sûr que si tu fais juste manger, par exemple, si tu vas chez McDonald's ou à une chaîne de restauration rapide et que tu manges une croquette de poulet, ben tu vois, tu fais pas le lien entre ça et l'animal. Parce qu'il n'y a pas d'os, il n'y a pas de pattes, il n'y a pas de tête, alors que c'est sûr, tu te dis, bon, ben là, ça sort. Ça sort d'où, les croquettes de poulet? Ben ça sort de la friteuse.
C'est ça! Mais c'est exactement ça, Sophie, t'as tout compris. C'est vraiment ça. Donc, le bacon, comment faire le lien avec le porc, le filet, même les poissons, tu sais, c'est des filets de poissons panés que la plupart ouais. des enfants américains mangent. Et là, tu te retrouves, comment tu penses que ça vient? Des poissons entiers, personne ne mange ça au presse. Fait que là, t'as un filet de poisson blanc, robé de chapelure, ça sort d'une boîte qui est congelée. Donc, c'est très difficile de faire le lien avec le poisson. Même chose, saucisse hot dog. Une saucisse hot dog, ça vient d'où? Tu penses quasiment que c'est un ficello, tu sais pas. Donc,
oui, mais en même temps, excuse-moi Isabelle, mais même les adultes, on sait pas trop ce qu'il y a dans les saucisses.
Ben, non, écoute, surtout quand tu lis la liste d'ingrédients, viande, extraite de porc et ou de bœuf et ou de, on sait pas trop, puis il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, effectivement. Donc, ça, c'est un autre point qui est important. Puis il y a aussi, moi, je pense que ça va être pire, de pire en pire, parce que il y a tous les produits d'origine végétale, le genre Beyond Meat, Beyond
oui,
Burger.
Oui, exactement.
Ben oui, puis qui ressemble à la viande. Donc là, imagine, les enfants de demain vont dire, bon, ben là, c'est-tu une imitation de la viande? Est-ce que c'est de la viande produite en laboratoire ou c'est de la viande qui vient effectivement d'un élevage? Donc, ça va être de plus en plus complexe. Je pense dans des pistes de solutions, parce que c'est quand même un constat qui est déplorable, ben c'est de ramener de la terre à la table, d'inviter
oui.
les enfants à avoir un potager, de comprendre bon comment ça pousse, parce que ça aussi, même dans les fruits et légumes, bon, c'est les pommes au Québec, c'est assez facile, mais quand même, comment ça pousse, est-ce que ça vient d'un arbre, est-ce que ça vient de la terre, d'amener les enfants dans une fromagerie, parce que le fromage, aucune idée. Il y a une autre étude que j'ai lue qui a le tiers des enfants de 5 à 8 ans qui savent pas de quoi sont faits le pain, le fromage et les pâtes alimentaires.
Hein?
Ils n'ont aucune idée. Effectivement.
Ah, ça, c'est particulier parce que, bon, là, c'est quand même la base. Puis, écoute, surtout que pendant la pandémie, il y a plein de gens qui sont mis à faire du pain. Donc, peut-être qu'ils ont découvert pour la première fois comment on faisait ça, cette affaire-là. Mais je veux juste revenir un tout petit peu en arrière parce que tu as dit quelque chose, c'est que si un enfant... on lui demande, le bacon, ça vient d'où, puis qu'il ne fait pas le lien avec le porc, ou qu'on lui demande, est-ce que le cochon, ça se mange? Il dit non, non, non. C'est aussi parce que c'est une société, la société américaine, puis je nous inclus là-dedans comme étant nord-américain, c'est une société où on a tellement valorisé la viande, où on a tellement fait le centre de notre assiette, que c'est sûr que si on montrait à tout le monde le petit cochon qui se fait égorger, puis trancher en morceaux, puis que c'est ça le bacon, ben je pense qu'il y a plein de gens qui arrêteraient de manger du bacon.
Ben voilà, puis c'est exactement là où les chercheurs nous amènent. On dit bon, les enfants c'est des vecteurs de changement. On doit diminuer notre impact sur l'environnement. L'impact carbone de la viande est de loin supérieur à l'impact de la culture des végétaux. Donc on dit ben faudrait exposer les enfants à ce constat-là. D'où ça vient la viande? Les enfants ne voudront plus manger de viande. Tant mieux, c'est meilleur pour l'environnement. Donc, c'est publié aussi dans un magazine pro-environnement. C'est
mentionné
l'étude par un groupe environnementaliste. Donc, on comprend que le but de cette étude-là, c'est de nous amener, il faut faire quelque chose, il faut éduquer les jeunes, il faut qu'ils comprennent qu'il y a de la maltraitance animale, il faut qu'ils comprennent que les animaux souffrent. Et comme ça, ben maintenant, ça va être des adultes du futur qui mangeront plus de viande et c'est encore mieux pour l'environnement. Ben c'est ça la conclusion de cet article-là, finalement.
Mais ça, c'est intéressant. Et moi, j'ai une question pour toi, ma belle Isabelle. Si on faisait ce sondage-là, parce qu'évidemment, tu peux pas sortir ça de ta tête, là, mais si on faisait, d'après toi, le même sondage au Québec, est-ce que les chiffres serait pas mal pareil d'après toi.
Oui, vraiment.
Oui, hein?
Oui, absolument. Puis on le voit, tu sais, que le poulet entier, c'est de moins en moins acheté. Puis ça, c'est, on voit le panier d'épicerie qui augmente de manière affolante. Puis ça, c'est de retourner vers un panier d'épicerie, de réduire le budget alimentaire pour plusieurs familles, ça passe par acheter des aliments entiers qu'on prépare soi-même. Donc, de retourner vers faire son bouillon de poulet soi-même, acheter le poulet en entier. Et puis ça, c'est une piste de solution, là.
Oui, tout à fait. Mais tu as tout à fait raison de le mentionner. C'est vrai qu'on regarde, ça, c'est absolument effarant, les prix.
Oui.
Et en effet, une bonne façon de le faire, c'est de prendre le poulet en entier. Non seulement parce que ça coûte moins cher, mais en plus parce qu'on peut l'apprêter à notre façon. C'est nous qui décidons. Est-ce qu'on le met des petites gousses d'ail dans le troufignon du poulet? Est-ce qu'on on lui met des petits citrons, des branches de romarin? Est-ce qu'on le met... Tu sais, je veux dire, c'est bien mieux ça que d'acheter du poulet tout préparé. Mais aussi, l'éducation. C'est-à-dire que si un enfant, il voit jamais à quoi ça ressemble, la nourriture, il y a une dissociation complète entre le monde agricole et le monde urbain. Ça veut dire que c'est le puis pendant la pandémie, on s'est rendu compte à quel point on dépendait des agriculteurs, à quel point l'approvisionnement c'était important, mais si on n'est même pas conscient de la façon dont ça se passe, ben là on est complètement dissocié de ces gens-là qui nous nourrissent.
Exactement, puis c'est exactement ça, il y a tellement peu d'exposition à l'élevage, à la transformation. Donc, le potager, c'est une chose, mais d'aller faire des visites à la ferme, c'est important d'aller visiter des fromageries, de voir comment ça se fait du fromage, d'aller visiter des boulangeries aussi, d'aller au marché public, de voir les grandes carcasses de bœuf. Là, on comprend mieux déjà, puis de demander au boucher de la prêter, ben là, ça nous expose, puis on comprend que ça provient d'un animal. Donc, ça, je pense que c'est ça devrait faire partie de l'éducation, tant à l'école que au sein des familles, là.
Alors, c'est assez particulier parce que moi, je suis vraiment pas bonne en cuisine, mais il y a une recette que je réussis bien, c'est le lapin à la moutarde avec des petites échalotes.
Et là, on comprend tout, là. Là,
écoute, quand tu vas à la boucherie, là, puis que t'as le lapin qui a l'air d'un lapin, il n'y a pas sa tête, mais tout le reste du corps d'un lapin, ça a vraiment l'air d'un lapin. Ben, c'est aussi ça, là. Il faut aussi l'éducation des enfants en leur disant, ben tu sais, la viande que tu manges, là, il n'y a pas très longtemps, c'était un petit lapin qui gambadait. Ben là, je pense qu'ils n'auront plus envie d'en manger. Mais ce que je veux dire, c'est aussi, il n'y a pas très longtemps quand même, il y a peut-être quoi, 30, 40 ans, les enfants étaient beaucoup plus en contact, justement, avec les animaux, puis on comprenait le lien. Puis aussi, on avait un respect pour les animaux parce qu'on savait que c'était ça qui nous nourrissait. Alors que là, c'est comme cette fameuse dissociation fait en sorte qu'on n'a pas le même respect ni pour les agriculteurs, ni pour les animaux qui nous nourrissent.
Exactement. Non, c'est ça. Dans ce sens-là, je pense que l'évolution a été délétère à ce niveau-là. Puis un retour à la ferme, c'est sûr, sur ça que c'est gagnant.
Oui. Écoute, Isabelle... j'aurais le goût de te demander, je sais que toi, t'es semi-végétarienne, en fait, tu manges très, très peu de viande, hein?
Très, très peu de viande. Moi, je trouve que c'est l'équilibre. Je m'inspire du régime méditerranéen. Puis, tu sais, je pense que c'est parfait. Très, très peu de viande. De temps en temps, moi, je suis pas difficile, on m'invite, on me sort un filet mignon, comme ce samedi, la fête de mon amoureux, j'ai un filet mignon sur la table. J'en prends, c'est parfait, je suis pas difficile, mais c'est sûr qu'essentiellement, moi, j'aime beaucoup les produits d'origine végétale, tout ce qui est tofu, légumineuse, bassin méditerranéen, c'est vraiment la cuisine qui m'inspire et qui me plaît le plus.
Alors,
c'est l'équilibre.
Oui, l'équilibre. Alors, j'ai juste une question pour toi, qu'est-ce que tu fais à Noël? Parce que, tu sais, Noël, c'est traditionnellement la dinde.
Oui.
Alors, avec tout, là, en plus, avec la farce et tout ça, alors comment on fête Noël quand on est dans le régime méditerranéen?
Ah, très bonne question. Ben, écoute, à chaque Noël, je suis absente, et inclure cette année. Et là, croyez-le ou non, je serai en Tanzanie. Je ne sais même pas si je vais être prise là-bas.
Oh.
Si je vais pouvoir rentrer, mais dans mes voyages, normalement, je m'inspire de la cuisine locale. Donc, j'ai mangé des chenilles à Noël, certains insectes. Ça m'arrive parce que j'aime goûter à tout. Je peux pas dire j'en ai un souvenir mémorable, mais on est dans des tentes en plein parc Serengeti en Tanzanie, donc j'ai aucune idée ce que je vais manger à Noël.
OK, mais moi, quand tu as mangé des chenilles, je veux juste savoir, les as-tu mangé avec des atokas?
Oh, pas du tout, mais pourquoi pas, ça pourrait enlever le goût terreux qui reste en bouche à peu près pendant une semaine. Ah non, j'ai pas aimé, mais ça aussi c'est culturel, parce que on a déjà un dédain de manger. Moi, j'ai aucun problème de prendre la poudre de grillon qui est déjà en poudre, parce que bon, tu vois pas, mais tu sais, c'est un blocage culturel, là, je veux dire. Tellement consommer les insectes un peu partout dans le monde, je dois passer par-dessus moi aussi, là.
OK. Bon, alors, donc, je retiens chenille avec atoka, peut-être pas, mais peut-être un bon tofu tao, oh, là, des recettes bien relevées avec des épices et tout ça, ça peut être une bonne
oui,
option pour Noël.
Oui, parce que mon voyage à Noël que j'ai préféré, c'était en Inde, où on a mangé strictement végétarien avec relevé d'épices, c'était sublime.
Absolument. Bon, ben comme ex-végétarienne aussi, je t'appuie tout à fait. Maintenant, je suis revenue à une alimentation plus équilibrée, je dirais plus pesco-végétarienne. Je mange de la viande, mais très peu. Mais ben voilà. Alors, écoute, c'était vraiment très rigolo de parler de ça avec toi, ce sondage quand même assez hallucinant, avec un très fort pourcentage d'enfants qui comprennent pas du tout d'où viennent la nourriture. Donc, je pense qu'on a encore un travail d'éducation à faire. Isabelle, je te souhaite une super belle période des fêtes, un joyeux Noël, une bonne année 2022. Puis, je trouve qu'on s'est pas beaucoup parlé, toi et moi, en 2021, fait qu'on va compenser en 2022. Faut qu'on se parle plus souvent.
Avec grand plaisir, Sophie. Ben, joyeuses fêtes à toi également, puis à tous les auditeurs.
T'es fine. Merci beaucoup, Isabelle Huot. Donc, qui est diététiste et qui est docteur en nutrition, excusez-moi l'expression juste, c'est ça, et que vous lisez régulièrement dans le Journal de Montréal, Journal de Québec.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
6 décembre 1989, je pense qu'on se rappelle tous où on était cette journée-là. Le drame épouvantable de Polytechnique, 14 femmes tuées parce qu'elles étaient des femmes. C'est évidemment de ça qu'on va parler avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
Bonjour Sophie. Effectivement, il y a des moments comme ça qu'on peut pas, tu sais, on peut pas oublier. Moi, j'étais étudiante à l'UQAM, mais il y a une brasserie. En tout cas, à l'époque, il y avait une brasserie à l'UQAM et on était des étudiants rassemblés là. Si je me trompe pas, c'était un jeudi soir dans ma mémoire, c'était un jeudi. Et à l'époque, il n'y avait pas les nouvelles en continu. Donc, il y a le bulletin de nouvelles qui commence. Il y avait des télévisions dans la brasserie. Et là, à un moment donné, tout le monde met les téléviseurs aux nouvelles. Et là, on voit ce qui se passe. Et tu sais, c'est sûr que personne n'a quitté l'endroit parce que on voulait comprendre, puis on voulait pas se quitter. Hein. C'était affolant là comme geste, parce que ça a pris du temps avant qu'on comprenne ce qui se passait réellement à Polytechnique.
Ça a pris du temps avant qu'on comprenne que ce n'était que des femmes. Alors, écoute, ouais. Moi, j'étais jeune reporter. J'avais 24 ans. J'étais jeune reporter dans la salle des nouvelles de Radio-Canada. Et ils ont dépêché des gens un petit peu partout en ville. Et moi, ils m'avaient envoyé dans un hôpital où on a reçu des blessés, des gens qui avaient été blessés à Polytechnique. Et écoute, ça a pris vraiment du temps. Je me rappelle même que ce soir-là, si ma mémoire ne me trompe pas, quand Bernard de Rome avait parlé au téléjournal de Radio-Canada de l'événement, personne n'avait insisté sur le fait que c'était des femmes. Le jour même, c'était encore, on n'avait pas compris qu'il ciblait des femmes. On était encore dans la possibilité que ce soit juste un hasard qu'il y ait eu 14 femmes, parce qu'on n'avait pas encore le témoignage des gens, des victimes, des gens qui étaient là et qui ont pu raconter comment ça s'est passé. Donc, c'est vraiment dans les jours qui suivaient qu'on a compris l'ampleur du drame et surtout qu'on a retrouvé la lettre de Marc Lépine, où en plus il expliquait son geste et aussi où il faisait la liste de toutes les femmes qu'il aurait aimé tuer.
Ben moi, j'ai un ami qui était à Polytechnique cette journée-là, qui évidemment a entendu les coups de balle, il a vu courir Marc Lépine. Et c'est sûr que c'est un traumatisme, parce qu'il y a beaucoup il y a eu beaucoup de chocs post-traumatiques qui a découlé des gens qui étaient à l'intérieur, qui ont entendu ça, qui ont vécu cette peur-là. Et tu sais, lui, il raconte toujours, mais on ne pouvait pas savoir qu'il s'attaquait qu'à des femmes à ce moment-là, tu sais, dans cette horreur-là de ces 20 minutes qui se sont passées. Et tu sais, il y a toujours comme un remords, un regret de dire, mais on aurait pu se mettre une gang de gars sauter dessus. Tu sais, c'est toujours se dire pourquoi on l'a pas fait, comment ça se fait, et ça s'atténue pas nécessairement avec le temps. Et de comprendre aussi a posteriori que c'était uniquement des femmes, tu sais, c'est affolant de comprendre que ça, c'est possible, tu sais, parce que moi, j'avais, je pense, 21 ans à l'époque, et on dirait que j'étais pas consciente, même si moi, j'ai toujours été féministe, j'ai lu Beauvoir tellement jeune dans ma vie que je me disais, quand on est femme, on est forcément féministe. Et moi, j'ai toujours perçu ça comme ça.
Mais comme une évidence, oui, comme une évidence, Marie-Claude, oui.
Oui, comme une évidence, totalement. Et de voir qu'un homme pouvait en vouloir à des femmes, uniquement des femmes, au point d'arriver à quelque part et de décider de les tuer, ça, c'est sûr que c'est marquant dans une vie quand on... C'est comme une instabilité, un doute qui s'installe, une incompréhension, et vouloir aussi comprendre, mais pourquoi, comment on arrive à ça. Donc, je pense que ça a été un événement... traumatique pour la société québécoise.
Totalement. Et tu parlais, ben, je ne connaissais pas cette histoire-là d'un ami à toi qui était présent et qui a donc vu ça. Et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment de ça, de ce traumatisme-là sur ce qu'on appelle communément les victimes collatérales, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas nécessairement été blessés physiquement lors de Polytechnique, mais qui en ont gardé une blessure à l'âme. Et je pense, par exemple, tu sais, le père, Pierre Leclerc, te rappelles-tu? Il travaillait au service des coms du poste de police. Il était sur place, puis il parlait aux journalistes à l'extérieur de Polytechnique, puis il a dit aux journalistes, parce qu'il était responsable des relations publiques, « Ben écoutez, je vais aller aux nouvelles parce qu'on ne sait rien. » Donc, je vais rentrer dans Polytechnique, je vais vous revenir, vous parler, pour vous raconter ce qui se passe à l'intérieur. Et il n'est jamais revenu parler aux journalistes parce que quand il est rentré, en se promenant dans les corridors, en rentrant dans une salle de classe, il voyait des victimes. Puis à un moment donné, il est arrivé face à face avec sa fille au sol, qui était la dernière victime. Marc Lépine a tué Maryse Leclerc, puis ensuite s'est enlevé la vie. Mais le drame épouvantable de cet homme-là, confronté face à face avec sa fille assassinée. Ce sont des blessures. Je ne sais pas comment on se remet de ça, Marie-Claude.
Hey, c'est parce que c'est une incompréhension, tu sais, que quelqu'un parte de chez lui, il y avait une arme, est arrivé à Polytechnique avec l'arme dans son sac et avec le seul désir de faire ce qu'il a fait, de tuer des femmes et tu sais, il a pas changé d'idée en arrivant là, tu sais, et de cet homme-là d'arriver sur une scène, de voir ce massacre-là, parce que juste voir ce massacre-là, c'est déjà trop pour un corps humain, pour une mémoire humaine, sans avoir un choc. Alors de retrouver sa fille, écoute, c'est c'est dur à, on dirait que c'est même pas faisable de se mettre dans la peau de ces personnes-là. Moi, je me souviens, on avait fait une émission il y a deux filles le matin. J'imagine que ça devait être pour le 25e de ce triste anniversaire de Polytechnique, parce que ça fait quand même quelques années. Et Nathalie Provost oui. était sur le plateau et mon équipe a mis un extrait d'un bulletin de nouvelles oh! du 6 décembre 89. Écoute, chose à ne pas faire, là, parce qu'il a fallu arrêter le tournage, parce que tout de suite, Nathalie est devenue dans un état, les souvenirs, elle l'envahissait. Déjà, de parler du 6 décembre, c'est difficile. Et là, je trouvais qu'on avait été, tu sais, ensemble malhabiles de ne pas avoir eu cette délicatesse-là, de dire, mais ça n'a pas de sens. Et on avait M. Duchesneau, oui. Qui était autour de la table et qui disait que lui, la pluie le dérangeait parce que c'était comme s'il entendait des coups. C'était, tu sais,
incroyable.
Toutes ces gens qui ont eu, oui. qui sont arrivés à un moment donné dans cette histoire-là, ne sont pas en paix. Et Nathalie Provost, moi, je veux souligner sa persévérance, son courage, cette bataille qu'elle mène depuis cette date pour, évidemment, pour plus qu'il y ait d'armes à feu comme
oui,
ça.
Oui, pour le
libre.
Contrôle des armes exactement. À feu. Puis elle a écrit une très belle lettre dans le Journal de Montréal, Journal oui. de Québec de ce matin, une lettre où elle s'adresse à ses enfants. C'est vraiment très touchant. J'encourage tout le monde. Et elle est en entrevue. Elle a été en entrevue aujourd'hui aussi avec Richard. Écoute, on parle évidemment des survivants. Nathalie Provost, donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc peut-être des gens plus jeunes, hein, pour qui ce nom-là peut-être est moins. Ouais. Résonne moins. Donc, elle a été blessée, elle était sur place, elle a été blessée, atteinte par balle par Marc Lépine. Et tu sais, quand on parlait tout à l'heure des gens qui ont été, des hommes qui étaient présents et qui se sentaient impuissants, il y a cet étudiant aussi qui était sur place, qui a assisté à tout ça et qui était incapable de vivre avec ce sentiment-là de responsabilité et d'impuissance et qui s'est ôté la vie. Puis un an plus tard, son père et sa mère se sont ôtés la vie. Donc, quand on parle des victimes de Polytechnique, puis on en parlait, toi et moi, quand on parlait du Bataclan ou quand on parlait de Charlie Hebdo, oui. que quand on dit simplement, bon, 14 personnes sont mortes, oui, 14 personnes sont mortes, mais il faut aussi avoir une pensée pour tous les autres, pour les survivants qui sont marqués à vie, pour la famille, tu sais, le mari de ces femmes-là qui sont mortes, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, un chagrin absolument épouvantable. C'est important de prendre ce temps d'arrêt. Et écoute, je pense que, tu sais, une journée comme le 6 décembre, je pense que c'est à 5h10 qu'on ouais. doit faire une minute de silence. Et j'espère que tout le monde l'a fait en ayant vraiment une pensée et en se disant plus jamais quelqu'un va s'en prendre à une femme parce que c'est une femme. Malheureusement, avec l'année qu'on vient de passer, avec le nombre de féminicides qu'il y a eu cette année, c'est raté.
c'est ça, les féminicides et aussi la montée des armes à feu.
Ben oui.
Je trouve que dans les. Tu sais, il y a comme deux batailles là-dedans, deux combats à mener, et dans les deux cas, c'est alarmant. L'année 2021 est une année noire. Quand on regarde ça, tu sais, 18 femmes qui ont perdu la vie et au cours de l'année 2021, l'année n'est pas terminée, on espère fortement qu'il n'y en ait pas d'autres. Et quand on regarde aussi la montée de la violence par arme à feu, par la facilité à se procurer une arme à feu, et quand on regardait dans les journaux au cours des derniers jours le représentant du Congrès, Thomas Massie,
oh! Écoute, un républicain c'est épouvantable.
Du Kentucky, avec toute sa famille, avec des... Je pense
la photo de Noël.
Enfants.
C'était épouvantable. Oui, c'était épouvantable.
C'était écrit « PS, Père Noël apporte des munitions »
sur son
Twitter. Alors, c'est ça, là. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un représentant du Congrès mette cette photo-là avec des... Écoute, il y a le père, la mère, les enfants, écoute. Mais la fille du milieu est mineure. Là. C'est une petite
ah oui,
fille.
Oui. Écoute, ils ont tous... Puis c'est pas des fusils pour aller tuer des petits lapins dans la forêt, là.
Non.
C'est des armes non. d'assaut. C'est effrayant. Non. Et en plus, ça a été publié sur Twitter quelques jours seulement après une fusillade dans une école du Michigan qui a fait 4 morts. Moi, je ne comprends pas les États-Unis. C'est un pays que je ne comprends pas. J'ai vécu aux États-Unis pendant 1 an. Je veux dire, Je ne comprends pas ce pays-là. Je comprends pas. Je regarde cette photo-là, là. Tu me montres cette photo-là. Pour moi, c'est comme si c'est des extraterrestres. Ils sont tous souriants devant leur sapin de Noël avec des armes d'assaut.
Banaliser les armes à feu de cette façon-là.
Je comprends pas.
Écoute, c'est pas possible. Parce que pourquoi on a besoin d'une arme à feu dans la vie? Tu sais, si on est chasseur, l'arme est enregistrée, est entreposée, protégée. Mais pourquoi on a besoin d'une arme à feu dans la vie? Par exemple, cette photo-là, pourquoi les 6 enfants ont une arme à feu, le père, la mère? Qu'est-ce qu'ils font avec des armes comme de ce calibre-là? C'est pourquoi on a besoin de ça? C'est pas pour commettre des gestes de violence. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec une arme à feu?
Et Marie-Claude, si je peux juste te raconter sur le... Donc, ce représentant-là, Thomas Massie, donc, a mis cette photo-là et évidemment, ça a provoqué un tollé. Donc, heureusement, aux États-Unis, il y a quand même des gens qui ont gardé leur tête sur leurs épaules et il y a quelqu'un qui a répondu à Thomas Massie en mettant une photo, c'est la dernière photo de sa blonde et à côté, c'est une photo de sa tombe parce qu'elle est morte quand il y a eu la tuerie dans l'école à Parkland. Donc, il dit « Tant qu'à partager des photos de famille, voici la mienne ». Ça, c'est... Excuse-moi, c'est pas sa blonde, c'est sa fille. Voici une photo de ma fille, la dernière photo d'elle, puis à côté, sa pierre tombale, elle est morte.
C'est terrible. Puis tu sais, t'as les armes à feu et t'as la violence. Tu sais, on parle beaucoup de la gestion des émotions des hommes, comment arriver à réduire ça. J'écoutais pendant la fin de semaine une série qui est sur vrai qui s'appelle « C'est arrivé près de chez vous ». Alors, ce sont tous des crimes qui ont été résolus, mais toute l'histoire du crime, comment l'enquête s'est déroulée. Et on parle, entre autres, d'un meurtre qui a eu lieu le 27 juillet 96 à Marion, en Gaspésie. Une jeune femme, Sonia Raymond, qui se promène sur la grève. Et tout à coup, Raymond Savoie, un homme qu'elle ne connaît pas, va lui parler, puis elle l'a repoussé. Elle voulait rien savoir. Tu sais, il avait l'air un peu à l'achaler. C'est parce qu'on le voit lui-même raconter l'histoire à un agent double. Et finalement, elle dit, ben là, elle m'a frustrée. Fait que t'es allé dans sa voiture, t'es allé chercher un couteau, il l'a assassiné sur le bord de la mer. Mais il raconte ça, je me disais, il y a quelque chose là-dedans, tu sais, il n'a pas pu accepter un rejet et ça valait la mort.
Ouais. Et souvent ça, hein, dans les féminicides aussi, là, c'est quasiment tout le temps, tu sais, même regarde Guy Turcotte, là, il n'acceptait pas la séparation, je veux dire, des gars qui se retournent vers soit leur conjointe ou leurs enfants, mais sont incapables d'accepter le rejet et il y a vraiment une question, puis on ne le sait pas nécessairement au complet l'histoire de Marc Lépine, quel genre d'enfance il a vécu, quel genre de rapport il y avait entre ses parents et tout, dans quelle image de la femme il a été élevé, mais qu'est-ce qui explique cette explosion de violence face à... C'est absolument épouvantable.
Ben ouais, c'est absolument épouvantable. Donc, tu sais, j'écoutais hier la ministre Guilbeault qui annonçait quand même des investissements majeurs pour, entre autres, toute la violence là, qui se passe, surtout à Montréal. Là. Mais, tu sais, elle parlait quand même de sensibilisation. Tu sais, les bracelets anti-rapprochement, entre autres, pour les féminicides, on en a parlé
Alléluia.
La semaine dernière.
Oui.
Mais il y a quand même là, des mesures. Je pense qu'on peut avoir une forme d'espoir, ça en prend, là, pour poursuivre, tu sais, entre autres, le combat que Nathalie Provost mène sur toutes les plateformes. Elle, c'est sûr que c'est pour le registre des armes à feu, mais ça, c'est important. Il faut qu'il y ait des développements. Mais pour contrer aussi la violence à sa base, ça prend aussi de l'écoute, ça prend des programmes. C'est quand elles disent, on va investir aussi dans des organismes qui s'occupent, tu sais, des jeunes dans la rue. Et c'est important d'aller au communautaire. Pour moi, il y a quand même quelque chose là de fondamental, tu sais, dans le cœur du développement de l'enfant, de l'adolescent, de se sentir faire partie d'un groupe. Tu sais, faut comprendre les besoins avant d'en arriver à faire partie des groupes ou avant qu'il y ait cette boule de violence, de haine contre les femmes. Et ça, c'est alarmant, tu sais, parce qu'on aurait pu penser qu'avec le temps, ça aurait diminué, mais on n'a pas tant cette impression-là. Donc, il y a beaucoup à faire. Alors, moi, je suis vraiment de près ce que la ministre Guilbeault fait. Je te dis, Sophie, je me dis, il faut qu'on fasse de quoi. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui va, en tout cas, qui va peut-être s'ouvrir. Est-ce que la génération montante, est-ce que les jeunes hommes et les jeunes femmes sont plus habitués à cohabiter, à se sentir plus égaux les uns envers les autres.
Puis à se parler, Marie-Claude, de puis je dis pas, je fais pas de lien entre ça et Polytechnique, mais je fais un lien entre ça et les féminicides, la quantité de gars qui gardent leurs émotions à l'intérieur, et la seule façon pour eux de l'exprimer, c'est comme un espèce de volcan en ouais. éruption. C'est pour ça que c'est important aussi, quand on investit dans les maisons pour accueillir les victimes de violences conjugales, c'est aussi important d'investir en amont auprès des groupes qui viennent en aide aux hommes, parce que c'est pas vrai qu'un homme va se sentir vulnérable, va chercher de l'aide et qu'on ne pourra pas l'aider. À ce moment-là, on n'aide pas à régler le problème si on fait ça. Marie-Claude, si tu croises ton ami qui était là à Polytechnique...
Oui, Jean-Simon.
Jean-Simon, offre-lui toutes nos pensées, et une pensée, bien sûr, aujourd'hui pour tous les survivants, les survivantes de Polytechnique, et surtout une pensée pour les 14 victimes. On pense à elles, leur pensée nous habite toute la journée. Merci beaucoup, Marie-Claude, et on se retrouve demain.
Merci beaucoup.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Si je vous dis Club Med, est-ce que vous pensez hôtel ou vous pensez centre de vacances, style petit centre de jour, de centre pour les enfants? Bien évidemment, quand on pense au Club Med, on pense à un hôtel, puis pas juste petit hôtel, là, un gros complexe hôtelier. Et pourtant, le tout nouveau Club Med de Charlevoix a réussi à être classifié comme centre de vacances, ce qui lui procure énormément d'avantages fiscaux. Et ça fait pas du tout l'affaire de l'Association hôtelière Québec. Donc, on va en parler avec la PDG de cette association, Véronique Tremblay. Bonjour, Madame Tremblay.
Bonjour, Madame Durocher.
Quand j'ai lu le texte dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, en fin de semaine, je suis partie à rire. Le Club Med qui se présente comme un centre de vacances, qu'est-ce que c'est ça?
Ben, je vous dirais que nous aussi, nous avons été très, très, très surpris. C'est certain que si on joue sur les mots, un centre de vacances, où on offre plusieurs services, tout ça, on pourrait dire, ben oui, c'est un centre de vacances. Mais dans les faits, la reconnaissance d'un centre de vacances au Québec, c'est plutôt des camps de vacances. Donc, pour les jeunes, ça peut être également des maisons de transition ou des camps particuliers pour des besoins particuliers, notamment, par exemple, des camps de vacances pour personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle.
D'accord.
Et bien souvent, quand on regarde sur le site Bonjour Québec, les hôteliers ou les centres qui s'appellent centres de vacances, bien souvent également, ce sont des OBNL. On est à des années-lumière du Club Med.
Oui.
Honnêtement, on a vraiment été surpris, puis même, je vous dirais, choqués. Parce qu'il faut être honnête, là, il y a plein d'autres hôteliers qui offrent également de la forfaitisation, des forfaits, et ils paient la taxe sur l'hébergement. La taxe sur l'hébergement, c'est un montant de 3,5% que les hôteliers doivent prélever et qui est retourné après au fond pour l'industrie touristique. Donc, ça aide les associations touristiques régionales, ça aide l'Alliance de l'industrie touristique, notamment pour faire la promotion du tourisme dans les régions du Québec, au Québec et à l'international. Et tout le monde fait sa part, tous les autres hôteliers au Québec font leur part, pas juste les hôteliers, les gîtes également. Donc,
vont
prélever également. Pourtant, les gîtes, ils doivent inclure dans leur prix pour la nuit à l'hôtel, ils doivent inclure également le repas du déjeuner. Mais c'est inscrit qu'il y a un montant de prélevé de 3,5% sur la portion nuitée, dans le fond, pour la taxe sur l'hébergement.
OK, vous êtes en train... Ben oui, mais vous êtes en train de me dire que si moi j'ai un petit bed and breakfast dans le fin fond des cantons de l'Est, que j'ai deux chambres, je dois prélever ce 3,5%, mais que une multinationale comme le Club Méditerranée, qui a des hôtels et des resorts partout sur la planète avec les haut les mains, que eux, ils le perçoivent pas. Je suis en bas de ma chaise.
Exact. Ben, nous aussi, nous étions en bonne chaise, pour être très honnête avec vous. Et c'est pour cette raison-là que nous avons décidé hier là, de réagir.
D'accord. Alors, comment on fait quand on est justement l'association Hôtellerie Québec? Comment on fait pour avoir des explications? Parce qu'en fait, c'est le Club Med a beau avoir demandé d'être classifié comme centre de vacances, ça ne voulait pas dire nécessairement que le gouvernement allait lui accorder cette classification-là. Exact. Donc, comment explique-t-on qu'au gouvernement, les gens ont reçu le dossier du Club Med, puis on dit, ah ben oui, on va considérer que c'est comme si c'était des OBNL, puis que c'était juste des petits camps de vacances pour des personnes en moyen. Comment vous expliquez ça?
Oui, ben en fait, je n'ai pas nécessairement de réponse à donner, outre que ce que je pourrais vous dire, c'est certain que si on va, par exemple, sur le site de la CITQ, de la Corporation de l'industrie touristique du Québec, qui est justement un mandataire du gouvernement pour octroyer les classifications. Donc, la demande a été faite à la CITQ et ça a été accepté. C'est certain que si on regarde sur ce site-là les définitions des différentes classifications, ben c'est là où je dis ils ont joué sur les mots, parce que en jouant sur les mots, ils peuvent réussir à se faire classifier centre de vacances, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Mais quand on regarde l'esprit de la loi lorsqu'elle a été adoptée, c'était pas du tout en ce sens-là, parce que ça visait une toute autre clientèle. Et d'ailleurs, quand on regarde sur le site Bonjour Québec, qui est classifié centre de vacances, parce que tu peux porter centre de vacances dans ton nom sans recevoir la classification centre de vacances.
D'accord.
Et quand on regarde la classification centre de vacances en tant que telle, qu'on va voir les autres, ben, je veux dire, ce sont des camps de vacances pour les jeunes, la grande majorité.
D'accord.
Et bien souvent des OBNL aussi. Donc, c'est là où on dit, ils ont joué sur les mots. Et oui, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée cet automne pour l'hébergement touristique. Donc, il y a des changements qui vont être apportés. Et fort probablement, cette faille-là, dans le fond, va être corrigée, mais ça ne s'applique pas encore, parce qu'il reste encore tout le volet réglementaire à faire. Et nous, ce qu'on dit justement au gouvernement, c'est est-ce qu'on peut aller rapidement, tu sais, agir rapidement, être proactif dans ce dossier-là, mais d'ici à ce que ça se soit fait, ben quand même, je veux dire, soyons réaliste, soyons équitables envers tous les autres qui contribuent à cette taxe-là, d'autant plus que, il faut le dire, le Club Med a reçu beaucoup de subventions aussi, et la promotion, là, il y en a eu énormément, et je veux dire, on n'est pas contre le Club Med, au contraire, on salue l'arrivée de ce nouveau joueur-là. Je veux bien comprendre, là, on est très content de l'arrivée de ce nouveau joueur-là, mais disons qu'on préférerait qu'en tant que bon citoyen corporatif, ben qu'ils puissent également récolter ce montant-là de 3,5% qui va être retourné justement à la promotion du tourisme.
Ben voilà, c'est
dans
là.
Dans la région de Charlevoix.
Ben, exactement, c'est ça. C'est là que ça devient absurde, parce que on est d'accord que l'association touristique de Charlevoix, ils vont faire la promotion en s'il vous plaît du Club Med, comme étant un pôle d'attraction, évidemment, pour que les gens aillent dans cette région-là. Mais en même temps, le principal intéressé n'aura pas, lui, contribué au financement de cette association-là, alors que, mettons, une petite auberge toute simple dans Charlevoix, pas loin du Club Med, elle va devoir payer. Donc, en fait, c'est comme un manque de toute façon, un manque de solidarité. Eux vont bénéficier de la promotion de l'association sans y avoir contribué.
Exact, exact. Tu sais, qu'on regarde que ce soit les Fermentes, les Hôtels Germain, tous les autres qui s'y retrouvent là-bas, je veux dire, ils récoltent tous la taxe de 3,5%. Alors, tu sais, par rapport, là, tu te compares à l'arrivée du nouveau joueur, ben c'est un peu choquant.
Ouais, c'est un peu choquant.
Certes, avec nous, ce qu'on dit, c'est soyons justes, soyons équitables pour tout le monde et, dans le fond, que les gros joueurs paient tous la taxe sur l'hébergement, qui, de toute façon, je veux dire, c'est pas retourné dans les poches des hôteliers, là, loin de
mais
là,
non.
Cette taxe-là. C'est pour aider au tourisme, à l'industrie touristique de façon générale. Et en ce moment, là, on est dans un moment où on a tous besoin de s'aider.
Bon, c'est parlons-en.
La réalité, là, c'est qu'on en a moins récolté là, de l'argent depuis près de 2 ans là, de taxe sur l'hébergement, parce que de l'hébergement, il y en a des nuitées, on en a moins loué. Alors, ce montant-là, puis là, le Club Med arrive vivent. Puis tant mieux, je veux dire, ça va bien. Ils ont beaucoup de locations, alors tant mieux. Mais on se dit, ce sera le moment de récolter la taxe sur l'hébergement. Et on comprend que sur l'ensemble du forfait qu'ils offrent, la taxe de 3,5% ne s'appliquerait pas sur l'ensemble de ce qu'ils offrent, mais uniquement sur la portion valeur hôtelière.
Comme je comprends.
Comme ça se fait dans les autres endroits.
Oui, je comprends tout à fait. Justement, parlons-en de ces deux dernières années, là, bientôt 2 ans depuis le début de la pandémie. L'année 2020, on peut l'oublier, là, dans les livres, ça a été absolument épouvantable. Quel genre de bilan on peut faire jusqu'ici pour l'année 2021 dans le domaine hôtelier?
Bien, ça dépend des régions, je vous dirais. Il y a certaines régions où ça a bien été cet été, là. Faut quand même le dire. Ça a été un début d'année très, très, très difficile parce que on était encore pour la plupart confinés, où on avait beaucoup de craintes. On pouvait pas vraiment voyager d'une région à l'autre. Alors, il y avait une situation X. Mais à partir du moment, à partir de l'été dernier, ça a été plus difficile pour Québec-Montréal, mais je vous dirais que pour plusieurs régions éloignées, ça a été un bon été. Donc ça, il faut être honnête de ce côté-là. Et un bon début d'automne aussi. Par contre, on n'est pas sorti quand je dis un bon été ou un bon. C'est une éclaircie à oui. travers plusieurs mois qui ont été vraiment difficiles. Puis pour nos gros hôteliers, je veux dire, on n'est pas sorti de l'auberge encore. La réalité, c'est que oui, dans certaines régions, les réservations vont bien pour le temps des fêtes, pour janvier. Mais je veux dire, le tourisme d'affaires, tout le tourisme qui provient de l'international, c'est encore très difficile. Et ça affecte encore davantage Québec-Montréal. Et là, bon, ça ne le cachera pas, il y a l'arrivée du variant Omicron aussi. Alors, ça a un impact. On le sent surtout depuis le début de la semaine dernière où, ben, il y a des annulations qui se font à cause de ça. Moins au niveau, je vous dirais, du tourisme de proximité, là, parce que je pense que nos Québécois qui ont réservé dans des chambres, ils savent que nos hôteliers, que nos propriétaires de gîtes, d'auberges sont sécuritaires, ont pris toutes les mesures, font attention, sont vraiment vigilants. Mais je voudrais qu'au niveau international, ben, c'est certain qu'il y a eu plusieurs annulations de Français, d'Américains qui ont dit, ben là, c'est l'incertitude beaucoup plus, là, tu sais, on ne sait pas trop.
À cause d'Omicron.
Ce qui va arriver, oui, à cause d'Omicron. Et, il y a le variant Delta aussi, là, parce que dans le fond, quand on regarde ce qui se passe en Europe, la situation n'est pas évidente. Alors, c'est pas uniquement, tu sais, on est perçu comme une destination sécuritaire, parce que notre taux de vaccination est élevé, on prend beaucoup de mesures de précaution, alors ça, c'est positif. Mais je veux dire, l'insécurité en lien avec les frontières, c'est sûr que ça a un impact. Et je vous dirais, le tourisme d'affaires, tout ce qui est le tourisme corporatif, ben ça a un impact aussi. Par exemple, une entreprise cotée à bourse ou qui avait prévu organiser un gros congrès ou encore un rassemblement pour faire de la stratégie, ben là, ils disent, ouais, peut-être qu'on va faire ça encore à distance cette année.
Oui.
Ils ne voudraient pas qu'il arrive quelque chose. Puis, alors, c'est sûr que de ce côté-là, ça affecte nos hôteliers. C'est difficile de parler de pourcentage parce que ça dépend d'une région à l'autre, donc ça peut varier beaucoup. Mais on mise beaucoup, puis, par exemple, en Abitibi, ben là, de ce côté-là, ça va beaucoup être, par exemple, le gouvernement CRI. Parfois, il y avait des voyages de fonctionnaires. Ben là, on veut être plus prudent que moins. Alors, il y a des annulations de ce côté-là aussi. Oui. Alors, je dirais que c'est à plusieurs niveaux, puis évidemment, chaque région a sa particularité. Mais on veut tous, puis tout le monde est de bonne foi, tout le monde a hâte que ça reprenne, parce que oui, ça a été très difficile. Pour la liquidité de nos hôteliers aussi.
Quand mais c'est fermé, ça, comment on fait?
Parce que c'est un service essentiel, mais tu n'as pas de clients ou pratiquement pas, c'est difficile. C'est très difficile. On a eu des aides du gouvernement fédéral. Ça a été apprécié. Mais faut pas lâcher. Là, on a été soutenu là aussi par nos gouvernements. On peut pas dire qu'il y a rien eu. Je vais vous dire, on espère qu'il va y avoir encore de l'aide parce que nos hôteliers ont besoin de se sortir la tête de l'eau là.
Est-ce qu'il y a eu des faillites? Est-ce qu'il y a des hôtels, différents endroits au Québec qui n'ont pas survécu à la pandémie?
Oui, il y a eu des fermetures. C'est sûr qu'il y a eu des fermetures. Donc, je dirais aussi souvent, ça peut être sur ça a été vendu, par exemple, des gîtes qui ont pu retransformer leur gîte en résidence. Donc, il y a eu différentes situations un peu partout. Mais tout le monde, je pense, souhaite toujours en disant ça va reprendre, ça va reprendre. Alors, c'est le souhait, puis tout le monde garde espoir et continue de travailler très fort. On mise sur une destination, on est sécuritaire. Alors, on mise beaucoup sur notre tourisme de proximité.
Oui.
Et je vais vous dire, ce qui nous a vraiment aidé, c'est le tourisme de proximité.
Heureusement.
On va passer le message. Heureusement, nos Québécois nous ont visités. C'est vrai, on va le dire, c'est vraiment apprécié parce qu'heureusement qu'on a les Québécois, on a eu beaucoup d'Ontariens aussi. Alors, c'est sûr que le tourisme de proximité, on l'apprécie énormément. Puis, on va le dire, les Québécois, continuez à voyager, à visiter vos belles régions, votre Québec, Québec-Montréal. On a de beaux attraits, on a de beaux hôtels. Hôtels, gîtes, auberges, résidences touristiques pour vous accueillir.
Vous êtes une bonne ambassadrice. Vous êtes une bonne ambassadrice, Madame Tremblay. Écoutez, il nous reste juste une minute. Je veux juste bien comprendre. Pour aller à l'hôtel, on n'a pas besoin d'avoir un passeport sanitaire. Par contre, une fois qu'on est à l'hôtel, pour aller au restaurant, là, ça prend un passeport sanitaire. C'est ça?
Oui. Oui, là, on n'a pas le choix. Ouais.
D'accord.
Dans le fond, tous les restaurants, c'est la même chose, qu'ils soient à l'intérieur d'un hôtel ou pas. Même chose s'il y a un buffet.
Mais ce que je veux dire, c'est que pour... Ah oui, même pour le buffet. Donc, même si on n'est pas adéquatement vacciné, on peut évidemment coucher à l'hôtel, mais on n'aura pas le droit d'avoir prendre le petit déjeuner avec les autres. OK, je voulais juste clarifier cette chose-là. Mais on n'a pas besoin de passeport sanitaire pour rentrer à l'hôtel, ça, c'est pas nécessaire. Madame Tremblay, écoutez, je pensais jamais entendre la PDG de l'Association hôtelière Québec utiliser l'expression « on n'est pas sorti de l'auberge », mais vous l'avez fait, puis je vous félicite là-dessus. J'adore votre sens de l'humour. Puis bon courage dans votre tentative aussi de faire entendre raison au Club Med. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ça. On va peut-être avoir des réponses au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Madame Tremblay.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
Véronique Tremblay, qui est présidente directrice générale de l'Association hôtelière Québec, elle m'a bien fait rire, en effet, en disant « on n'est pas sorti de l'auberge ». En tout cas, nous, on est sorti de l'auberge. Ça va bien, nos affaires. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Florence Lamoureux, qui a travaillé toute la fin de semaine à la recherche. Merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve, bien sûr, on a toujours rendez-vous demain, mardi.
Cube Radio.